posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Bonsoir, il paraît que l'ambiance s'est apaisée aujourd'hui au sommet de l'OTAN entre Donald Trump et ses alliés européens. À voir, hein. N'empêche, le ton n'avait cessé de monter pendant deux jours, aussi bien sur les dépenses militaires des différents pays que sur le projet de doublement du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. D'ailleurs, les Européens n'étant pas tous d'accord d'ailleurs sur ce projet, des Européens qui se divisent également sur la question des migrants, sur la question de la réforme de la zone euro, l'Union Européenne aussi qui a fort à faire face à un Brexit de plus en plus incertain. Alors face à tous ces défis, quelle langue doit parler l'Europe? Comment relancer l'Europe? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ah oui, ça en fait des dossiers. Et justement, pour cette dernière de la saison des décodeurs de l'écho, voici Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, c'est la ministre chargée des Affaires européennes. Marc Lherbitte avec nous, associé dans le grand cabinet d'audit international EY. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business, et celui qui, bien depuis des années, vous dit « faites l'Europe, pas la guerre », le professeur Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Alors, selon Emmanuel Macron, l'OTAN sort beaucoup plus fort de son sommet. C'est ce qu'il disait cet après-midi. Donald Trump, qui demandait que les pays européens de l'OTAN accroissent leur budget militaire, annonce qu'il a eu gain de cause. Ses partenaires apparemment s'engageant dans ce sens. Alors Trump rassure les alliés, je crois en l'OTAN. Le président américain.
Mais je peux vous dire que l'OTAN est maintenant vraiment une machine bien réglée. Les gens paient ce qu'ils n'ont jamais payé auparavant et ils sont heureux de le faire. Et les États-Unis sont traités beaucoup plus équitablement.
Alors, ambiance apaisée, bon, on va voir ça quand même, hein. Pas sûr. Hein. Au sommet de l'OTAN à Bruxelles, on a entendu Donald Trump s'en prendre oralement ou par tweet, hein, une nouvelle fois aux pays européens alliés des États-Unis au sein de l'OTAN, alors critiquant à la fois leur niveau de dépenses militaires, leurs pratiques commerciales également. Nathalie Loiseau, comment est-ce que vous qualifiez les harangues de deux Trump, à la fois sur les dépenses militaires, les questions de protectionnisme, avec ce slogan brandi et répété maintenant depuis des mois, depuis qu'il a été élu? L'Amérique d'abord.
Le communiqué de la fin du sommet de l'OTAN, c'est pas l'Amérique d'abord ou la France d'abord, c'est l'alliance renforcée. On y croit tous, on en a besoin depuis bientôt 70 ans. On le pense tous. Le reste, c'est une communication, je dirais, bien à lui, qui lui est propre.
Mais c'est tout le temps, c'est tout le temps. Est-ce que ça ne lasse pas un petit peu les Européens de se faire reprendre en permanence, de se faire corriger, de nous fixer des ultimatums, sincèrement?
Je vais vous dire, je crois que s'il y avait encore des Européens qui doutaient du besoin d'unité de l'Europe, ce genre de comportement lève les doutes.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que j'ai l'impression que l'Europe est très unie face à Trump?
Écoutez, sur les mesures commerciales qui ont été imposées par l'Amérique sur l'acier, sur l'aluminium, il y a une réponse unie, proportionnée, calibrée de l'Union européenne. Sur ce sujet, on a un dialogue ferme. Juncker sera bientôt à Washington pour en reparler avec le président américain. On est très au clair. Sur le sujet de l'accord nucléaire iranien, les États-Unis en sont sortis. C'est une décision que nous ne partageons pas. Toute l'Europe y est restée et soutient cet accord. Moi, j'ai un souvenir, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, j'ai notamment vécu en 2003 pendant la guerre d'Irak. Là, l'Europe était divisée, n'avait pas réussi à avoir une position unique par rapport à la décision américaine. Aujourd'hui, l'Europe est beaucoup plus unie qu'elle ne l'était à l'époque.
Alors oui, sauf que Trump, il agite un petit peu les pays d'Europe de l'Est, le groupe de Visegrad, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne sur les migrants. Il y a la question du doublement du gazoduc Nord Stream qui part de la Russie vers l'Allemagne. On reviendra sur le cas spécifique de ces harangues contre l'Allemagne, parce que j'ai l'impression que vraiment il veut se cogner Angela Merkel en permanence, hein, Donald Trump. Là aussi, la Pologne, elle soutient pas forcément ce projet allemand. Voilà. Alors, je suis pas sûr qu'il soit très... Et puis bon, on aurait pu rajouter le budget de la zone euro, la réforme de la zone euro. je suis pas sûr que tout ce beau monde soit vraiment réuni. Hein.
Alors ça a pas grand-chose à voir
avec Trump, bien sûr, Trump. Mais on va en reparler. Mais en tout cas, sur les deux précédents dossiers, oui.
Écoutez, sur beaucoup de sujets, on est unis, on avance, et on avance depuis un an comme on n'a pas avancé en 60 ans. L'Europe de la défense, ça a été un slogan. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité. On a une...
Ah pardon, avec Varsovie, Bucarest, qui achètent du matériel américain en pleine guerre commerciale aussi, ça c'est solidaire.
Avec la mise en place d'un fonds européen de défense, c'est-à-dire de l'argent européen, de l'argent public européen, programmé pour 13 milliards dans le prochain budget européen, pour soutenir de la recherche, du développement, de capacités militaires communes. Ah ben, c'est sans précédent. 60 ans pendant lesquels on a invoqué ça, parfois très seul. On avait été aussi à l'origine du premier échec de la communauté européenne de défense. Aujourd'hui, l'Europe de la défense devient une réalité. Une coopération avec 25 pays de l'Union européenne, avec des projets, le Schengen militaire. Jusqu'à présent, faire circuler du matériel militaire en Europe, c'était extraordinairement compliqué. C'est en cours. Une initiative pour avoir une culture stratégique commune. Aujourd'hui, vous avez des troupes françaises en Lituanie. Et vous avez des troupes néerlandaises, estoniennes au Mali. Pour la première fois depuis des décennies, on a la même vision géopolitique du monde. On voit les menaces là où elles se trouvent et on agit ensemble. C'est pas mal, c'est pas rien.
Bon, mais si t'es trois pays, je suis pas sûr que les 20 autres également soient autant engagés justement contre le terrorisme en Afrique. Bon, on y reviendra sur l'Europe de la défense. Jean-Luc Sauron, Trump, est-ce qu'il ne souffle pas parfois sur les braises en exacerbant les divisions entre pays européens? Je prenais l'exemple du groupe de Visegrad. On le sent beaucoup plus à l'aise quand il s'agit justement d'intervenir sur la question des migrants. On sait que la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, ils veulent pas du tout entendre parler du moindre migrant. Et Trump, lui, ferme ses frontières au Mexique.
Alors je crois que Trump, il est très excessif dans l'expression, mais il n'est pas fondamentalement différent de ses prédécesseurs. Le problème américain, c'est de maintenir l'Europe hors de l'eau, de la maintenir suffisamment forte pour être un allié qui peut l'aider, mais pas assez fortement pour que ça devienne un concurrent. Donc il y a toujours ce petit jeu en permanence, d'avancer, de reculer, de soutenir, de pas soutenir complètement. Rappelez-vous le discours de Bush sur l'ancienne Europe et la nouvelle Europe. Je crois véritablement qu'il y a toujours eu c'est un couple qui ne parle pas la même langue totalement. Et je crois quand même que s'il y a un bilan à tirer de ces deux jours, c'est que bon, la situation ne peut peut-être pas être aussi forte, mais je pense vraiment, rappelons-nous que quand il est arrivé, il voulait remettre en cause
tout à fait.
L'article 5 sur le train automatique.
Pour l'instant, il n'est pas question de se désengager.
Et, très sincèrement, le fait que les États-Unis demandent aux Européens de participer davantage au financement, ça peut-être aussi amener tous les Européens à se dire notre défense en Europe, c'est une question commune.
Vitale.
Bon, on peut le faire déjà dans le cadre de l'OTAN, mais on peut aussi faire d'autres initiatives.
Et là, vraiment, les États se sont engagés à faire plus, comme le dit Donald Trump. Il a vraiment fait plier ses alliés, nous-mêmes, donc.
Écoutez, nous, la France, cet engagement, on l'a pris, d'abord, on l'a pris en 2014. Et aujourd'hui, avec la loi de programmation militaire qui sera promulguée demain.
Bah oui, vous avez raison.
On sait qu'en 2024, on y sera aux 2%. Et on pense nécessaire que d'autres pays européens augmentent aussi les budgets qu'ils consacrent à la défense.
C'est 1,8% pour la France, hein, simplement. Je donne quelques ordres d'idées. Il y a 4 pays qui sont déjà à 2%, le UK, bien sûr, ouais. Les États-Unis, bon, évidemment, la Grèce, l'Estonie. Il y en a d'autres qui vont arriver, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie. Bon, alors, en effet, plus sur la frontière Est, peut-être qu'ils se sentent plus menacés. On peut tout à fait.
On ne met pas tous la même chose non plus dans ces 2%. Voilà. Quand on a une dissuasion nucléaire, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on n'en a pas.
Ça pèse plus, oui, vous avez raison. Marc Lhermitte, avec nous, associé du cabinet EY. Quel bilan, justement, faire de toutes ces harangues, de ce climat qui s'apaise apparemment, sincèrement ou pas?
Alors, heureusement, pendant ce temps-là, l'économie tourne. J'allais dire, heureusement que les entreprises, grandes, moyennes et petites, je dirais plutôt les grandes, font leur croissance, leurs projets dans une Europe relativement attractive. L'année dernière, plus de 6500 investisseurs étrangers se sont dirigés sur le continent européen. Je dis bien le continent européen, la grande Europe a 50 pays, y compris la partie occidentale de la Russie, y compris la Turquie. C'est l'Europe business qu'ils voient. Heureusement que pendant que l'Europe politique reste faible ou dispersée, malgré les efforts, on l'a bien compris, du gouvernement français, de quelques pays qui veulent et qui savent qu'il faut une Europe plus forte, et ça n'est pas indifférent aux dirigeants économiques. Mais pendant ce temps-là, pendant que le Brexit côté Bruxelles et côté Londres lance ou fait peser une incertitude incroyable sur les projets d'investissement, dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, heureusement pendant ce temps-là, les dirigeants ont un peu la tête froide, en ont vu d'autres en Europe, se préoccupent un peu moins des rodomontades du président américain, de la dispersion, de la fragmentation européenne, et arrivent à faire leur marché dans une Europe assez diversifiée, assez dispersée peut-être, mais assez diversifiée. Et l'année dernière, les entreprises américaines se sont pas senties effrayées de ce climat politico-institutionnel un peu aléatoire. 1500 d'entre elles sont venues prendre une décision. En France, au Royaume-Uni encore un peu, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, et c'est ça qu'il faut voir. Alors, en revanche, peuvent-elles se contenter pendant encore des mois et des années d'une Europe qui est dans une passe difficile, une Europe, l'Académie des sciences sociales chinoise, qui a, quand elle a la liberté de ton, un ton assez juste, dit un géant économique et un nain politique, peut-elle se contenter de cette faiblesse politique pendant des années? Certainement pas, on y reviendra. Il y a un sentiment européen de la part de la population européenne qui est au plus faible, et c'est important pour les entreprises, parce que ce sont leurs salariés, ce sont leurs consommateurs. Il y a probablement pas assez de programmes européens sur des...
Les entreprises doivent-elles davantage parler Europe à leurs collaborateurs, à votre avis, Marc Hermite ?
Sans doute, et c'est ce que certaines d'entre elles, certaines d'entre nous, essaient de faire. Mais c'est difficile, c'est un sujet qui divise, parce que on tombe aussi dans nos écosystèmes, chez nos collaborateurs, dans des divisions sur le sentiment européen, parce que l'espace de jeu, c'est le monde pour la plupart de ces entreprises et de ces collaborateurs. Donc, elles doivent sans doute s'engager dans la bataille. Je pense qu'il faut qu'elles arrêtent de donner des leçons, de râler, pour le dire un peu trivialement, comme elles l'ont fait beaucoup sur la France. Il faut qu'elles soient un peu moins dans l'Europe bashing, mais c'est difficile de le faire à titre individuel, et puis même au titre un peu collectif des fédérations d'employeurs. Je pense que Pierre Gattaz, qui part à Bruxelles pour prendre Business Europe, a du pain sur la planche,
sur le MEDEF européen,
va essayer sans doute de s'y lancer.
Ouais, c'est vrai, Nathalie Loiseau, une Europe qui se cherche, qui se divise sur certains dossiers. Alors moins apparemment quand on vous écoute, mais bon, l'Europe, est-ce qu'elle fait toujours rêver face à la tentation du vote populiste sur lequel on reviendra? Comment est-ce qu'on doit parler d'Europe? Est-ce que des consultations citoyennes telles que celles que vous menez, vous, au gouvernement, est-ce que c'est suffisant?
Alors d'abord, c'est pas le gouvernement qui les mène, c'est la société civile, c'est notamment des entreprises qui se sont engagées. Aussi parce qu'elles voulaient savoir ce que leurs salariés pensaient.
Avec votre impulsion, voilà.
Bon, on leur a proposé, on a proposé ça à 27 pays de l'Union européenne, évidemment pas au Royaume-Uni. Donc il y a 450 millions de gens qui sont consultés en ce moment en ligne, mais aussi par des débats partout. En France, il y a déjà 350 débats programmés et on en veut davantage. C'est un moyen de dire aux gens, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez de l'Europe? Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes actionnaire. Le projet européen, Bruxelles, ça n'existe pas. Bruxelles, c'est nous. Bruxelles, c'est ce qu'on en fait. Et donc, s'il y a des insatisfactions, s'il y a des manques, s'il y a des choses qu'on fait trop, quand on dit qu'il y a trop de réglementations, d'accord, lesquelles? Là où on a envie de voir l'Europe plus présente, pourquoi et comment? Je pense que c'est absolument nécessaire. Je pense que cette déconnexion entre le projet européen et les populations européennes, ce statu quo n'est pas bon. On l'a vu dans un certain nombre de pays, y compris dans un pays comme l'Italie avec une déception par rapport à l'Europe. C'est pas que les électeurs italiens ne voulaient plus d'Europe. Ils auraient voulu qu'il y ait eu plus d'Europe sur les migrants, sur la crise financière. Donc il faut redonner la parole aux associations, aux collectivités locales, aux syndicats. Moi, j'ai tout un tas d'interlocuteurs qui organisent en ce moment des consultations citoyennes. J'ai participé à plus d'une trentaine. Et on entend beaucoup de choses, beaucoup d'attentes. Je crois que ça n'est pas qu'on n'aime pas l'Europe, c'est que, en tout cas en France, on voudrait qu'elle fasse mieux, qu'elle fasse plus. On est très en attente d'une réponse européenne, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin d'Europe qu'aujourd'hui.
Et Emmanuel Le Chiff, face à cette attente des citoyens européens dont parle la ministre Nathalie Loiseau, est-ce que vous avez l'impression que la réponse qui est faite par les gouvernements, notamment les différents États, est-ce qu'elle est suffisante?
Non, parce que moi, s'il y avait une inquiétude majeure à manifester, c'est quand même cette idée qu'il y a de plus en plus de problèmes que chaque pays est incapable de résoudre tout seul. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de problèmes qu'on a envie de résoudre ensemble. Et c'est bien ça le sujet, finalement. Parce que quand on regarde la photo, c'est vrai qu'on peut avoir une photo qui est encore acceptable, un marché de 500 millions d'habitants, etc. Mais quand vous regardez le film est quand même pas du tout rassurant. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les grandes avancées de l'Europe, il n'y en a pas une qui a moins de 30 ans. Si vous prenez la paix, alors évidemment la paix, c'est toujours l'acquis qu'on donne en premier. Si vous prenez la politique agricole commune, ça a eu marché, mais ça marche quand même plus très bien. Les fonds structurels, ça a très bien marché, ça marche encore. Mais ça, voilà, Erasmus, c'était il y a plus de 30 ans. Citez-moi un grand projet européen qui a fonctionné depuis 20 ans.
Le règlement général sur la protection des données.
Il y en a, oui. Alors par exemple, par exemple. Oui, mais le problème, c'est qu'au lieu de réglementer, si on avait plutôt développé notre secteur technologique, ça, des réglementations, on est capable d'en faire. Et ça, c'est peut-être un des défauts de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup réglementé, on n'a jamais été capable d'instaurer un rapport de force.
Bah, c'est un peu le contraire que disent les Américains aujourd'hui. Ils regrettent de ne pas avoir mis en place quelque chose qui ressemble au RGPD.
Mais je crois que c'est ce qui va...
Et ça leur coûte très cher.
Il n'y a que ça qui va nous rester. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez finalement, même sur le plan économique, c'est quand même assez terrifiant ce qui est en train de se passer. Parce que moi, les entreprises européennes, d'abord, finalement, je me dis que c'est... Quand j'écoutais Marc Lhermitte, franchement, pour un Français ou un Belge ou un Allemand, ça lui fait une belle jambe qu'il y ait une usine qui aille s'installer au Royaume-Uni, etc. La réalité, c'est qu'on s'est beaucoup fait concurrence entre nous. Rappelez-vous l'idée qu'on nous vendait, qui était de dire que l'Europe va être une forteresse qui va nous protéger des vents mauvais venus de l'étranger. Ça a été quand même une forteresse à l'intérieur de laquelle on s'est quand même beaucoup concurrencé nous-mêmes. Et donc, ça, c'est un sujet. Et puis, pour terminer, la lenteur des processus de décision. C'est-à-dire que prenez tous les sujets, les réponses, c'est toujours trop peu, trop tard. Tous les grands sujets de ces dernières années, les migrants, par exemple, la technologie. Attendez, la technologie, je termine là-dessus. La technologie au sommet, enfin, je veux dire, l'objectif en 2000, c'était 3% du PIB de R&D. On n'y était pas en 2010, on n'y sera pas en 2020. Je vous rappelle qu'en 2000, personne ne connaissait Google, Apple, on connaissait un peu, Samsung ne faisait encore que des téléviseurs, et vous voyez que ça n'avance pas. Et aujourd'hui, l'Europe est une diagonale du vide technologique. C'est la patronne des études de l'OCDE, Laurence Boone, qui le dit. Et donc, alors après...
Et c'est pas la construction européenne, ça c'est les États
membres. Non, je suis d'accord, mais vous allez voir s'effondrer notre secteur aérospatial, parce que c'est ce qui va se passer, vu qu'on est incapable de prévoir l'avenir et que toutes les commandes aujourd'hui sont en train d'être passées auprès des autres opérateurs que Ariane Espace. Moi je pense que, voilà, et en même temps je terminerai, alors de façon un peu provocante, en reprenant la citation de Einstein qui dit « La folie, c'est de croire qu'en faisant la même chose, on produira des résultats différents. » Et non, et on essaye encore de nous faire un ministre des Finances de la zone euro, en sachant très bien que ça n'avancera pas et que ça marchera pas. Donc, moi, je suis un peu inquiet, et notamment sur les processus de décision institutionnelle.
Alors, Nathalie Loiseau, Jean-Luc Sauron.
Je suis sûr qu'il y a 3 mois, vous disiez jamais l'Allemagne ne voudra d'un budget de la zone euro. Je vous ai pas écouté à l'époque.
L'Allemagne, elle est toujours d'accord pour accepter des concessions quand ça va très mal.
Bah, ça va pas très mal. Il y a de la croissance partout en Europe. On est en train de réformer la zone euro à un moment où il n'y a pas de crise.
C'est vrai. Il n'y a pas de crise.
Eh ben oui. Parce que on peut se lamenter, on peut se couvrir la tête de cendre. Simplement, on est effectivement un marché unique de 500 millions d'habitants. On a de la croissance, on a de la baisse du chômage. On a la Grèce qui est en train de sortir de son plan de sauvetage. On avait dit que la Grèce sortirait de la zone euro, que tout était fichu. La Grèce a beaucoup souffert. Et précisément,
elle continue de souffrir beaucoup.
Et elle continue de souffrir beaucoup.
La population souffre toujours.
Et précisément, pourquoi on veut renforcer la zone euro aujourd'hui? C'est pas par idéologie, c'est par pragmatisme. C'est pour que demain, si on est face à un pays en crise, ils ne doivent pas traverser les mêmes affres que la Grèce a connu. Mais ça, justement, c'est en train de fonctionner. Justement, à Meseberg, il y a quelques...
Que quand vous allez devoir discuter de ce qu'on met à l'intérieur de chaque responsabilité, vous voyez bien que les Allemands, leur ministre de la zone euro, eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt un père Fouettard, nous, c'est plutôt un père Noël, et que comme sur chaque sujet, on va se mettre d'accord sur l'affichage, mais qu'on n'avancera pas concrètement.
Jean-Luc Sauron.
Moi, je crois que je remercie Emmanuel Chypre pour ces mots d'espoir qu'il vient de dire, parce que ça, je ressentirais dynamisé cette émission. Non, la société civile.
Ça paye plus, Jean-Luc, l'espoir.
L'espérance, alors. Non, alors, je reviens sur la société civile. Il y a eu quelques jours, il y a un rapport commun de l'Institut Montaigne et de Terra Nova qui a fait un rapport extrêmement intéressant sur comment répondre à la crise migratoire. Et il y a les propositions pratiques. Et ça, je crois, ce que je veux en venir, c'est que Meseberg, tout ça, bon, ça est très très bien. Je suis assez d'accord avec Emmanuel. Le nombre de déclarations sur un avenir en prospère à l'horizon, je pense que les gens ont du mal à suivre aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut des réalisations matérielles, pratiques, à court terme. Et ça, je crois que c'est extrêmement fort. Et c'est extrêmement important. Et là où je rejoins la ministre, c'est qu'il y a quand même une partie du problème, c'est les classes politiques nationales. Parce que, on va prendre deux extrêmes, géographiques et politiques. Comme le Brexit, c'est une condamnation globale de la classe politique britannique. C'est inimaginable ce qu'ils ont laissé faire, dire où ils sont aujourd'hui. C'est cet après-midi, le nouveau ministre des Affaires étrangères n'arrivait même pas à Paris. Tellement les parlementaires le coupaient la porte, ils disaient, mais où est le rapport? Il n'y a pas de texte. Et il prend une position qui est très dure. À l'opposé, et bon, on a Tsipras. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu sur Tsipras, sur ce qui s'est installé? Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas de cravate, mais il y en a d'autres. Mais en dehors de ce manque de cravate, c'est quand même quelqu'un qui a su, je veux dire, prendre les décisions extrêmement difficiles. Et je pense qu'il y a peu de gouvernements en Europe qui auraient eu le courage. Parce que je crois que les Français ne se rendent pas compte de ce que les Grecs ont subi. C'est-à-dire, je sais pas, au moins la moitié de la retraite qui a été... ils ont perdu la moitié de la retraite. Il y a le niveau hospitalier en Grèce... il est inférieur à celui de certains pays émergents. Le système tunisien de santé est supérieur au système grec aujourd'hui. Donc je veux dire, il y a des hommes
qui... Il y a la réussite portugaise aussi.
Non, mais aussi.
Remarquable.
Donc c'est le gouvernement, il y a aussi
la
ministre Nathalie Loiseau et juste après Marc Lhermy. EY.
Moi, je voudrais rebondir sur les migrants parce que on a pris l'habitude depuis quelques semaines de reprendre le langage des populistes, de reprendre le langage de Monsieur Salvini... parfois le langage de Monsieur Seehofer en Allemagne, est de dire l'Europe a été incapable de faire face à la crise migratoire. Sauf que, en 2017, on a diminué de 80% les arrivées de migrants par la Méditerranée centrale. Sauf que on a signé un accord avec la Turquie et que ça a mis fin à l'arrivée des migrants par la Méditerranée orientale.
J'entends Nathalie Loiseau.
En réalité, l'Europe a réussi à faire face à cette crise migratoire sans précédent. 2 millions de personnes qui arrivent d'un coup. Ça n'arrive pas très souvent dans l'histoire contemporaine. L'Europe y est parvenue. Alors aujourd'hui, on a des gens qui, pour des agendas politiques nationaux, veulent nous faire croire que l'Europe est une passoire et que rien ne marche.
Bien sûr, vous avez raison, mais...
Mais tout le monde embarque là-dessus quand en disant que là, ça ne marche
quand on
pas.
Quand on parle de lenteur, et c'est ce qu'Emmanuel Le Chypre disait tout à l'heure, il regrettait la lenteur de la prise des décisions, quand on entendait Jean-Luc Sauron espérer des réalisations à court terme, on voit MSF qui nous dit, aujourd'hui, il y a eu plus de 600 morts en Méditerranée ces 4 dernières semaines. Aujourd'hui, à Innsbruck, il y avait la réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE pour tenter de clarifier, j'utilise bien le terme clarifier, le projet de plateforme de débarquement en Afrique des migrants secourus en Méditerranée qui avait été proposé lors de ce mini-sommet un peu convoqué en urgence il y a 10 jours.
Non, c'était le Conseil européen qui n'était pas du tout convoqué en urgence. Hein.
Non, le Conseil européen était là, mais il s'est greffé l'histoire de la crise allemande.
C'était à l'ordre du jour, mais...
Bon, en tout cas, c'était la semaine de crise allemande, en effet, avec M. Seehofer. Est-ce qu'on fait pas un peu de bricolage quand même avec les vies humaines, ces plateformes? C'est superflu. On voit des pays comme le Maroc, la Tunisie qui n'en veulent pas, les pays européens qui sont même divisés sur la faisabilité, la légalité de ces plateformes. On fait quoi finalement?
On a commencé au Niger, au Tchad, depuis l'année dernière, à faire en sorte qu'on examine les dossiers des gens qui viennent, demandeurs d'asile ou migrants économiques. Ceux qui sont des réfugiés en besoin de protection, on leur dit ne traversez pas la Libye, ne subissez pas tout ce qu'on sait qu'un migrant peut subir en Libye. Ne prenez pas le risque de traverser la Méditerranée. N'enrichissez pas les passeurs. C'est ça contre quoi il faut qu'on soit beaucoup plus efficace. On vous réinstalle directement en Europe. Et on a commencé à le faire, nous, Français, et on a incité les autres Européens à le faire. Et aux autres, à ceux qui ne sont manifestement pas des demandeurs d'asile, avec une demande justifiée, parce qu'il y a un détournement des procédures par les passeurs, on leur dit, ne vous faites pas rouler. Ne dépensez pas des milliers d'euros pour vous retrouver esclave en Libye, noyé en Méditerranée, et qu'à la fin, on vous dise non, vous n'avez pas le statut de réfugié. On a commencé. Il faut qu'on continue. Ça veut pas dire...
Ça n'empêche pas les gens de...
ça a fait diminuer les chiffres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moins 80% par la Méditerranée centrale, pratiquement personne par la Méditerranée orientale. En ce moment, il y a un peu plus d'arrivées par le Maroc et l'Espagne. Et là-dessus, l'Espagne et le Maroc sont en train d'en parler. On va en parler avec eux. Le Conseil européen... Je répète, il n'avait pas été réuni dans l'urgence.
Il était prévu, mais crise des migrants et avec la crise allemande, il fallait régler ça très rapidement. Angela Merkel, elle a besoin cette semaine-là.
Il y a eu de la gesticulation politique de certains, c'est vrai.
Le ministre de la CSU.
Et on est sorti avec une solution coopérative européenne avec le travail dans les pays d'origine.
Cette question, elle a été un peu bricolée malgré tout quand même, non ?
Le travail dans les pays d'origine, c'est pas bricolé, c'est une facilité fiduciaire qui fait 3 milliards d'euros. C'est pas exactement ce que j'appelle du bricolage. Pour faire en sorte que dans les pays d'origine des migrations économiques, notre aide soit plus efficace, l'Europe est le premier donateur d'aide à l'Afrique subsaharienne. Il faut qu'on concentre notre aide sur la formation, sur l'éducation, notamment l'éducation des petites filles, sur la santé. On va pas se résoudre. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Médecins Sans Frontières ou SOS Méditerranée, qui considèrent que finalement, traverser la Méditerranée, c'est normal.
Bah, ils disent pas que c'est normal. Ils constatent juste qu'il y a eu 600 morts ces 4 dernières semaines.
Oui, mais la responsabilité, elle vient d'où ? Elle vient de l'absence de perspective économique et sociale pour des jeunes en Afrique. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. La responsabilité des noyades, c'est celle des passeurs. Moi, j'ai été voir l'opération européenne, SOFIA, qui a d'ailleurs son siège à Rome, ce qu'il faudrait rappeler de temps en temps à Monsieur Salvini, qui fait en sorte d'essayer de lutter contre les passeurs en Méditerranée. Les passeurs, ce sont des gens qui achètent des dinghies à quelques dollars et qui mettent des centaines de gens dessus en sachant pertinemment qu'ils les emmènent à la noyade. C'est là-dessus qu'il faut qu'on lutte. On a réussi, même au Conseil de sécurité, à prendre une résolution nominative contre des passeurs en Libye. Il faut qu'on soit très déterminés.
Quand Salvini, aujourd'hui, encore une fois, menace de fermer le col du Brenner à la frontière avec l'Autriche.
Vous comprenez... C'est l'Autriche qui menace de fermer le Brenner rapport à Salvini.
J'ai entendu aussi que Salvini aussi, j'ai lu qu'il envisage de fermer le col du Brenner, parce qu'en effet, pour ne pas récupérer des migrants qui se sont retrouvés en Autriche et qui devraient être logiquement renvoyés sur l'Italie, premier pays, etc. Bon, voilà. Vous comprenez l'exaspération de l'Italie quand même, qui est en première ligne?
Oui, c'est pour ça qu'on a fait une proposition à l'Italie. C'est de déployer beaucoup plus d'aide européenne en Italie. On ne change pas sa géographie. Les gens qui vont traverser la Méditerranée, le premier endroit européens qui vont trouver, c'est Malte ou l'Italie. Ça, on ne le changera pas. Simplement, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que l'Italie, ce soit déjà l'Europe, avec des moyens européens, financiers, en effectif, en expertise, pour prendre complètement en charge le sujet. C'est-à-dire qu'une fois arrivé, mettons en Italie, si vous êtes réfugié, vous êtes réinstallé quelque part en Europe, dans les pays volontaires, nous le sommes. Nous venons d'accueillir ce matin 78 réfugiés de l'Aquarius. Et si vous ne relevez pas du droit d'asile, vous êtes accompagné dans votre pays d'origine avec l'aide, les moyens et un accompagnement financier de l'Union européenne. Ça veut dire que l'Italie n'est plus seule. C'est d'ailleurs exactement ce que Giuseppe Conte a dit à la sortie du Conseil européen.
Alors, Marc Lhermitte, EY, pardon.
Je crois qu'on a raison de rappeler que là, il y a des enjeux d'urgence et qu'il faut que l'Europe soit au rendez-vous de cette solidarité, de ces enjeux humanitaires absolument dramatiques. Il faut que sur le moyen et long terme, on protège un peu l'actif, qui est l'économie de l'Europe. Il faut savoir que l'Europe, vu par les entreprises, les entrepreneurs, les talents qui rejoignent l'Europe, chercheurs, étudiants, scientifiques qui rejoignent l'Europe, beaucoup plus qu'on ne le pense, ils sont un peu préoccupés de cette croissance un peu lente, alors que l'actif de l'Europe, c'est justement de la stabilité, des compétences et puis une très grande diversité de familles sectorielles, de familles industrielles, de grands talents. Et pour protéger cet actif, je crois que c'est ce que Donald Trump a en tête, c'est que l'actif européen, il est aujourd'hui peut-être plus désirable que l'actif américain. En chiffres tout simples, à parité monétaire, le PIB européen, c'est à peu près le PIB de la Chine. Numéro un, juste un petit peu devant, c'est la Chine quand même. Et puis, 21 000 milliards pour la Chine, 20 000 milliards pour l'Europe. Et puis juste derrière, 18 000 milliards, les États-Unis. C'est ça que Donald Trump résumé sur une petite fiche, je ne sais pas s'il dit ses fiches, mais en tout cas en trois chiffres simples, que ça, Donald Trump le voit et c'est ce qu'il a dans son viseur. Après, moi, je serais légèrement désaccord avec Jean-Luc Sauron et Emmanuel Le Chypre. Je pense qu'on ne peut pas faire trop concret et trop vite quand on parle d'Europe. Ça, c'est 50 ans d'histoire et d'expérience qui nous le montrent. Je pense qu'il faut au contraire que l'Europe retrouve du souffle. Et je pense qu'on en prend pour 5 à 10 ans. Il faut se le dire. On peut pas, juste parce qu'on est à un an des élections européennes, se dire que les problèmes de migration, la question des grands projets scientifiques et économiques européens, probablement plus sur le climat et l'environnement, que sur la techno, que la question des vrais sujets durs sur lesquels l'Europe peut probablement un peu redonner de la vie et du sens aux populations européennes qui s'écartent et qui vont s'écarter peut-être aux élections prochaines sur l'environnement, sur la sécurité, sur les libertés fondamentales, dire un peu que l'Europe peut jouer un rôle là-dessus et probablement se lancer dans un plan un peu plus ambitieux, un peu plus long terme sur ces questions-là.
Eh ben, on va continuer dans un instant. Comment relancer l'Europe? Toujours avec Marc Lhermitte, EY, Emmanuel Le Chypre, Nathalie Loiseau, la ministre. Et puis Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen, tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors, riche actualité européenne cette semaine. On va reparler évidemment du Brexit, hein. Bon, donc on ne voit pas forcément, eh bien, l'issue en tout cas. Est-ce que le Brexit aura bien lieu l'an prochain? Bon, rien n'est moins sûr, hein. Le gouvernement britannique tergiverse face aux Européens. Et puis, il y avait également le sommet de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles qui, dit-on, s'est terminé un petit peu mieux que prévu. Donald Trump ayant convaincu, dit-il, eh bien, les pays à faire davantage en matière de dépenses militaires. Les pays européens, bien sûr. Bon, quand même, c'en est quand même beaucoup pris à l'Allemagne, hein, sur les négociations commerciales, et ça c'est pas nouveau.
Il a raison,
Ah bah, vous allez me dire, Emmanuel Le Chypre. Il y a aussi, il s'en est pris à l'Allemagne, l'accusant d'être totalement sous le contrôle prisonnier de la Russie à propos de livraison de gaz à travers le pipeline, le Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne. Vous avez une explication quand même, Nathalie Loiseau, vous êtes ministre des Affaires européennes. Est-ce que vous avez l'impression que Trump s'en prend particulièrement à Angela Merkel? C'est sa cible, délibérément ou pas?
D'abord, Trump voit l'Europe différemment de ceux qui, ici dans l'Union européenne, pensent que ça ne va jamais. Nous, on nous dit en permanence qu'il faudrait que sur le plan commercial, vous cessiez d'être naïf parce que finalement, on se fait dévorer le foie par la terre entière. Et puis, vous avez un Donald Trump qui vous dit « j'en peux plus de l'excédent commercial européen par rapport aux États-Unis ». Juste pour se dire que on n'a pas dû être si naïf ou si mauvais dans les négociations jusqu'à présent, puisqu'en fait, on exporte. Alors c'est vrai que c'est surtout l'Allemagne qui exporte. C'est pour ça que lui, il a beaucoup de mal à concevoir ce que c'est qu'une Union européenne. Et il adorerait négocier en tête à tête avec Angela Merkel ou avec Emmanuel Macron. Simplement, c'est Jean-Claude Juncker qui va le voir à Washington. La dernière fois, c'était Cecilia Malmström. Et là-dessus, il y a un mandat qui est donné par l'ensemble de l'Union européenne qui consiste à dire on ne va faire aucune concession, on ne va même entrer dans aucune négociation à un moment où, étant allié des États-Unis, on fait l'objet de mesures commerciales désagréables vis-à-vis de l'Europe. C'est non. Dans ce contexte-là, on n'entre pas dans une discussion. Qu'on se mette à parler de la réforme de l'OMC, qu'on se mette à se demander pourquoi est-ce qu'il y a des surcapacités de production d'acier dans le monde, d'où elles viennent et comment on lutte contre les aides d'État, mais on y est prêt, on lui a dit, mais simplement, on ne négocie pas sous la menace ou sous des espèces de sanctions déguisées destinées à ce qui est l'ensemble géopolitique le plus proche des États-Unis en termes d'alliance.
La France soutient vraiment l'Allemagne quand l'Allemagne est montrée du doigt et dénoncée par Trump. Il y a vraiment une solidarité.
Il y a une seule voix, c'est une voix européenne. Et ça, c'est peut-être déstabilisant pour un président américain ou pour d'autres interlocuteurs d'ailleurs, hein, d'autres pays tiers. Mais c'est le cas en matière commerciale. Il y a une seule voix.
Pourquoi vous disiez qu'il avait raison, Emmanuel Le Chypre, le président américain, de tenser l'Allemagne?
Il a raison parce que le niveau des excédents allemands.
Oui, c'est ça, ce que disait la ministre Nathalie Loiseau, bien sûr.
Et il s'explique en partie par effectivement le fait que, alors là pour le coup, c'est un des inconvénients de l'euro, hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un euro qui a quand même accru les disparités entre pays plutôt que de les atténuer et qui a renforcé les forces initiales de chacun et qui a mis du sel sur les plaies qui étaient les plaies de chacun. Et donc le succès de l'Allemagne, vous allez me dire, j'ai toujours dit du mal de Madame Merkel, mais tout le monde y a vu un dirigeant sage génial. Madame Merkel, elle a juste géré un héritage et elle a laissé prospérer son industrie sur une monnaie outrageusement sous-évaluée par rapport à ce qu'est la nécessité de l'économie allemande. Donc voilà. Après ça, je pense que c'est compliqué. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, il y a énormément de raisons de réagir aujourd'hui en Europe. Donald Trump devrait être effectivement l'occasion de montrer que finalement, l'Europe doit plus que jamais s'unir et compter sur ses propres forces. Mais enfin, encore une fois, quand vous regardez la plupart des chantiers, que vous preniez la fiscalité, que vous preniez l'Europe sociale, etc., on avance très très peu, en fait. Encore une fois, on avance très très peu. Et puis sur les migrants, bon, moi j'entends votre discours, mais enfin la réalité, c'est que la Turquie, on la paye très cher qu'elle contienne le problème et qu'elle règle le problème, mais c'est pas ce que moi j'appelle régler le
3
le
milliards problème. Dans une première enveloppe, 3 milliards dans une seconde enveloppe.
Donc moi
3 millions de réfugiés en Turquie quand même.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, on se débarrasse du problème en payant les Turcs pour gérer le problème à notre place. Voilà, bon, c'est un peu ça.
C'est pas la question. Quand vous êtes réfugié syrien, vous n'avez pas forcément d'autres projets dans votre vie que de voir revenir la paix en Syrie.
Je vais vous dire, moi, ce qui me fascine quand même avec l'Europe, c'est que quand vous interrogez sur les 5 continents les gens, où est-ce que vous auriez envie de vivre ?
En Europe.
En Europe. Et en fait, l'Europe, c'est ça qui est incroyable, c'est que l'Europe, elle fait rêver tout le monde sauf les Européens. Donc, moi, j'entends bien tout ce que vous dites, mais simplement, aujourd'hui, dans ce que vous dites, qu'est-ce qui fait rêver le Français moyen ou l'Allemand moyen, etc. Je trouve qu'Emmanuel Macron, il avait très bien commencé, par exemple, en s'attaquant au problème des travailleurs détachés, qui est le produit d'un vrai délire de la commission ultralibérale des années 90, parce que c'est quand même le cas. On paye aujourd'hui les errements de cette époque-là. Hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans le fonctionnement de l'Europe, parce qu'on a corrigé ces délires ultralibéraux. Qui étaient,
et on est arrivé en moins d'un an. Alors que tout le monde nous avait dit, c'est impossible, alors, vous ne le ferez jamais.
C'est un peu plus ancien, mais disons que le plan de relance européen,
on a renversé la table il y a un an en disant que sur les travailleurs détachés, c'est n'importe quoi, on n'a aucune ambition sociale, il faut maintenant faire en sorte qu'il y ait...
Le résultat n'est pas non plus...
Travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail, 12 mois maximum pour un statut de travailleur détaché, la lutte contre la fraude et les abus, y compris en signant des accords bilatéraux avec la Pologne ou la Hongrie.
Ce qui est le sujet majeur.
Écoutez, je pense que c'est pas mal.
Marc Lhermitte, EY, Jean-Luc Seron, la guerre commerciale, la riposte, elle est vraiment unie donc en l'intérieur de l'Europe face aux États-Unis.
Non mais juste Alcide Loiseau, vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rappeler que les droits de douane sur les automobiles américaines sont plus élevés que les droits de douane aux États-Unis sur les voitures européennes. C'est pour ça que vous avez raison. Il n'a pas complètement tort, Trump, quand il dit.
Marc Lhermitte.
Oui, je crois. Enfin, sentiment. La semaine dernière, vendredi dernier précisément, on réunissait une quarantaine de patrons de grandes entreprises basées en Europe, qui sont des entreprises américaines, japonaises et européennes. Et qui, avec lesquels on évoquait les sujets du moment, qui ont un impact sur leur entreprise, sur leurs décisions, sur leur innovation. Je crois qu'ils nous ont tous partagé le sentiment qu'ils vont avancer malgré l'Europe. C'est ça qui est un petit peu désolant, c'est que ils sont à titre personnel et ils voient dans leur entreprise. Vous aviez raison tout à l'heure, Nathalie Loiseau, voient dans l'entreprise que le sentiment, il n'y a pas loin. Pour faire émerger un sentiment européen dans la nouvelle génération qui se retrouve très bien dans Erasmus, qui a pour l'essentiel d'ailleurs connu Erasmus ou une forme d'Erasmus, c'est-à-dire des échanges, des expériences, et qui aujourd'hui voit l'Europe comme un terrain de jeu du week-end, une expatriation temporaire, un stage. Et donc il n'y a pas grand-chose à faire pour cette génération, les milléniaux, la génération Z probablement, pour leur faire redonner un sentiment européen. Dans ces entreprises, on est hyper prudent aujourd'hui sur ce qu'on appelle la guerre commerciale. Je considère qu'il n'y a pas encore de guerre commerciale. Il y a des menaces de guerre commerciale. Il y a des rodomontades sur les grands équilibres entre États-Unis et Chine, entre États-Unis et Europe. On voit bien le jeu qui est de parler au ventre des États-Unis et de dire « je vous défends, je te défends, toi, ouvrier du Wisconsin, tu vas voter pour moi, toi, qui a 3 emplois de service dans l'Alabama ». C'est ça. Trump a des midterms dans quelques mois et c'est ça qu'il fait en ce moment. Que ça nous fasse un peu mal, que ça fasse un peu mal à l'Allemagne et sans doute un peu à la France, ça fait un... Je pense que ça soude l'Europe, donc d'une certaine manière, le résultat est atteint. Et derrière, le projet de l'Europe pour redonner du sens, redonner du sentiment européen numéro un, pour travailler, donner un peu de souffle et peut-être de dureté, et je pense pas à court terme, à la politique européenne sur les questions de liberté, sur les questions d'environnement, sur les questions de sans doute de migration et de compétences, et puis faire un peu plus de convergence européenne. Je rappelle que c'est le sens premier de l'Europe que de faire un peu de convergence entre États. Est-ce qu'on peut pas relancer la question d'un modèle social européen, un SMIC européen, un peu plus de convergence fiscale européenne? Je pense que là, si on oublie que ces sujets-là sont les sujets fondamentaux, on a perdu cette génération qui va aimer l'Europe.
Des années, des pays comme le Luxembourg et l'Irlande qui pratiquent une concurrence fiscale totalement exacerbée à nos portes et qu'on dit rien. Moi, je veux bien, mais il y a quand même des sujets qu'il va falloir attaquer de front.
Jean-Luc Sauron et la réponse de la ministre Nathalie Loiseau. Jean-Luc Sauron, s'il vous plaît.
Moi, j'avoue que j'ai jamais baigné dans une atmosphère aussi heureuse sur l'Europe. Donc, j'avoue que je suis un peu gêné, étant un militant européen depuis quand même très longtemps. mon entreprise qui appelle au SMIC européen, ça est très très bien. Pourquoi il n'y a pas de social en droit européen? Pourquoi il n'y a pas une Europe sociale? Parce que les traités ont dès le départ indiqué que c'était dans la main des États membres et qu'il n'y a pas de possibilité d'évaluer. Et ensuite, que l'ensemble des 27, pas les Britanniques, 27 États estiment que leur régime social est le meilleur et le mieux organisé. Attendez une seconde.
Mais rien ne change.
Non, mais rien ne change. Je veux dire, on peut pas à la fois consulter les populations et expliquer que voilà. Pas se concentrer sur le court terme et qu'il faut faire sur le long terme, moyen terme. À qui on s'adresse? À qui s'adressons-nous? En vous écoutant sur Erasmus, sur des tas de choses, mais c'est très clivé socialement, ce que vous dites. L'Europe, un terrain de jeu. Mais est-ce que vous vous rendez compte, nombre de Français, ils n'ont jamais quitté l'Hexagone pour des raisons sociales et économiques. Et vous leur expliquez, l'Europe est un terrain de jeu, l'euro c'est formidable, Erasmus c'est encore plus fantastique, vous êtes sans doute, comme moi, des enfants qui ont fait Erasmus, c'est quand même pas financièrement donné à tout le monde, Erasmus.
Non, mais faisons un Erasmus de l'apprentissage.
Mais bah, arrêtez,
c'est fait,
quoi.
Mais c'est fait, mais non, mais comment voilà. Ça arrêter?
Non, mais un apprentissage, attendez, apprentissage, moi, je la mesure de la place. Financièrement, où vous allez trouver l'argent? Il n'y a pas d'augmentation de budget européen sur Erasmus.
Le prochain budget européen, on double Erasmus. Je suis désolé de vous contredire.
Rendez-vous le jour où le prochain budget sera adopté. On verra les vrais chiffres. On verra ce qui se passera. Je veux dire, on va prendre un exemple. La Slovaquie, il y a un couple de journalistes qui ont été assassinés. Sur quoi? Sur un problème de fraude au fond structurel. La réaction normale dans une Europe qui n'est pas bien heureuse, c'est d'envoyer une commission d'enquête de la Commission pour s'interroger sur la réalité de ces manipulations et de ces fraudes. Vous en avez entendu parler?
Je pense que tout le monde est d'accord avec
c'est
vous.
C'est pas parce que vous n'en avez pas entendu parler, mais je vous signale quand même que le gouvernement slovaque a sauté.
Non, mais il n'y en a pas eu.
Je vous signale quand même que le gouvernement slovaque a sauté.
Slovaque mobilise.
Intéressant. Malte aussi.
Écoutez, c'est quand même...
Non, mais Malte, enfin, chiffre. Non, mais on peut pas. Enfin, moi, j'estime que si on va tranquillement aux élections du Parlement européen, en disant, on n'a jamais été aussi heureux. Alors, j'ai vraiment très très peur du résultat.
Nathalie Loiseau, puis on va terminer par le Brexit quand même, parce que là, je ne comprends plus rien ce qui se passe sur le Brexit. Allez-y, Nathalie Loiseau.
Alors, je crois que personne n'a dit qu'on n'avait jamais été aussi heureux, mais je crois aussi qu'il faut regarder ce que fait la Commission, précisément, sur les questions d'état de droit. On a auditionné la Pologne en Conseil des ministres il y a une quinzaine de jours, pendant plus de 2 heures d'horloge, pour lui poser des questions très précises sur la réforme de la justice. Et là-dessus, on a décidé qu'on allait conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit, au respect de l'indépendance de la justice, c'est quand même une décision assez courageuse. Je suis d'accord avec vous, tant qu'on n'a pas davantage de convergence sociale et fiscale, on se fait concurrence entre nous. C'est la raison pour laquelle nous nous poussons à un autre conditionnement de l'aide versée aux pays européens sur la convergence sociale et sur la convergence fiscale. On ne peut pas financer, par exemple, ce que fait un pays comme la Hongrie, une baisse de l'impôt sur les sociétés à 9%, parce qu'on est par ailleurs récipiendaire de milliards d'euros de fonds européens. Ça n'est pas possible, parce que ça se fait au détriment d'autres pays européens.
Alors,
donc là-dessus, on a des idées très claires, on ne dit pas que tout va bien. On est ambitieux pour l'Europe, on est exigeant pour l'Europe, on n'est pas des Européens.
Les négociations sur le Brexit en panne. Trump, après Bruxelles, il entame une visite un petit peu tendue, enfin en tout cas qui s'annonce tendue. Climat hostile avec Theresa May, bien sûr, oui, dans un pays, voilà, qui a connu cette semaine une crise majeure, départ de 2 ministres et pas des moindres, le MAE Boris Johnson, le ministre du Brexit, Monsieur Davis. Est-ce que le temps ne commence pas à être un petit peu long, Nathalie Loiseau? Est-ce que le Brexit aura lieu vraiment fin mars? C'est impossible. C'est un nouveau coup porté aux négociations, ces deux démissions.
Alors non. Le gouvernement britannique a gagné en cohérence ce qu'il a perdu en fantaisie. On n'aura plus la.
Pour rappeler, ces deux ministres pensaient que Madame May, voulait trop s'ouvrir à l'Union européenne et ne voulait pas respecter les règles d'un Brexit pur et dur.
Il voulait un Brexit pur et dur, c'est-à-dire que le Parti conservateur britannique avait complètement oublié de discuter avec les milieux d'affaires britanniques. Manifestement, il y avait un divorce. Ils sont partis. Ils sont partis au moment où il fallait entrer dans le dur et il fallait commencer à dire la vérité. Et Madame May, avec le livre blanc que j'ai pas encore entièrement lu, c'est 98 pages. Bon, il manque une page, c'est quelle contribution au budget européen par rapport à tout ce qu'elle demande. C'est dommage que cette page.
C'est ce qu'elle a présenté aujourd'hui, les détails de sa proposition de relations commerciales avec
lui. Mais Madame May a quand même dit un certain
nombre
de choses réalistes, à commencer par dire que en sortant de l'Union européenne, la City perdait le passeport financier européen.
Logique.
Alors la City dit quelle horreur, on est déçu. Enfin, il était temps que les choses soient dites. Le Brexit, ça n'est pas Noël en mars 2019. C'est une mauvaise nouvelle pour les Britanniques, mais aussi pour l'Union européenne. Alors, je vous reprends juste sur une chose. Le Brexit, il aura lieu.
Quand?
La vraie question, et il aura lieu le 29 mars 2019. La vraie question, c'est est-ce que ce sera un Brexit avec un accord raisonnable qui nous permette de limiter les dégâts, ou est-ce que c'est un Brexit sans accord, comme on a vu beaucoup d'irrationalité dans la vie politique britannique depuis 2 ans, on ne doit pas exclure cette hypothèse-là. On fait tout pour l'éviter, mais on doit aussi s'y préparer.
Marc Lhermitte, hein, et ouais, Jean-Luc Sauron après.
Pour paraphraser quelqu'un, quel pognon de dingue dépensé dans voilà fou. Pour observer par la petite lucarne, lire les notes des think tanks, toutes contradictoires les unes avec les autres. Quel pognon de dingue dépensé sur un. Voilà, des négociations, des menaces, de l'incertitude finalement. Hein. Un certain nombre de nos clients sont à quelques millions d'euros ou de livres, je ne sais pas, ça dépend de quel côté de la Manche, d'études exploratoires, de réorganisation de leur système, sans savoir sur quel bouton appuyer.
C'est pour donc ça que je pense qu'il faut qu'on arrête. Le temps commence à être
voilà,
un petit peu long.
Il faut siffler
hein.
La fin, non pas de la récré, parce que je suis pas un bienheureux Jean-Luc Sauron, mais simplement, je pense qu'il faut, on peut redonner un peu de sens et un peu de positif à l'Europe. Vous avez raison, à un an des élections, dire à quoi ça sert, dire ce qu'elle a fait de bien, dire ce qu'elle doit faire dans les 5 à 10 ans à venir, et pas dans les 5 à 10 mois à venir. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on s'attende. Et c'est ça que les entreprises ont besoin d'entendre aussi.
Jean-Luc Sauron, Emmanuel Lechypre, un mot chacun.
Merci. Non, alors sur le Brexit, c'est une crise politique britannique d'abord. C'est la classe politique britannique qui a fait vraiment absolument n'importe quoi. Mais c'est aussi la traduction d'un inconscient européen qui n'est pas qu'en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Britanniques? Leurs parlementaires leur ont dit « je peux rien faire, Bruxelles décide de tout ». Comme ils ne pouvaient pas supprimer le Parlement britannique, auquel ils tiennent comme un point de leurs yeux, juste titre, eh ben ils ont supprimé Bruxelles. Pour le moment, ils n'ont toujours pas compris que ça ne résout strictement rien. Et bon, à mon avis, en Grande-Bretagne, ça ne sortira, parce que quand ils seront sortis, ils seront dans la mélasse, ce sera toujours la faute de l'Europe. Il y a quand même un discours paranoïaque un peu qui se développe. Mais il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne. Sur l'Italie, auquel moi je suis très attaché, je pense que le discours de Salvini fait un très grand dégât. Pas dit tout à l'heure de l'utilisation par les Hongrois des sommes. Je ne vois pas comment le gouvernement Conte va financer l'ensemble de la politique sociale qui est en rythme.
Sur le Brexit, Emmanuel.
Le Brexit, je pense qu'on ne se rend absolument pas compte du fait qu'il est techniquement alors il aura bien lieu évidemment, mais il est techniquement impossible à organiser pour la bonne raison que il n'y a pas les compétences, il n'y a pas les hommes et la complexité du sujet qui s'est découverte est totalement disproportionné par rapport à ce qu'on avait anticipé. Et donc, il y a un état d'impréparation qui est total. Pour le reste, malheureusement, le problème européen, c'est pas seulement un problème économique, puisqu'il y a des travaux qui ont été très très intéressants, qui ont été faits avec l'Eurobaromètre qui est sorti là il y a quelques jours sur le sentiment anti-européen ou pas par pays. Et vous voyez que le sentiment anti-européen que vous avez dans des pays comme l'Italie ou l'Autriche, par exemple, vous ne pouvez pas l'expliquer par l'économie. C'est-à-dire que si vous prenez l'évolution de la croissance, du revenu par habitant, des inégalités, etc., vous voyez pas de corrélation majeure. Ça veut dire qu'il y a des choses beaucoup plus profondes.
Allez, la conclusion avec vous, Madame la Ministre.
C'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'Europe et que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne convainc pas suffisamment les populations, n'est pas toujours assez rapide et n'est pas toujours sur les bons sujets. C'est pour ça qu'on appelle à une refondation de l'Europe, c'est-à-dire qu'on est exigeant, qu'on apporte des idées et que on dit aussi aux populations, emparez-vous de ce sujet. L'Europe, c'est nous.
Vous leur dites, faites l'Europe pas la guerre, comme le dit Jean-Luc Sauron.
Non, je leur dis, prenez le contrôle de l'Europe.
Ah, bon. Je suis déçu, mais bon, c'est pas grave.
Merci Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes. Merci Marc Lhermitte, associé dans le grand cabinet d'audit international EY. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen. Voilà, bon été à tous. C'était bien les décodeurs. Très bonnes vacances à tous. À bientôt.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.